Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, les raisins de la colère.
Un demi-millier de viticulteurs sont en ce moment en route pour Paris. Ils viennent de Beaune, de Dijon, de Chablis. Ils viennent dire non à un projet de révision de la prestigieuse AOC Bourgogne qui prévoit d'exclure une soixantaine de communes de l'appellation. Une réunion est programmée aujourd'hui au siège de l'INAO. C'est l'Institut National de l'Origine et de la Qualité qui est à l'initiative de ce projet. C'est le député LR de Lyon, Guillaume Larrivé, qui mène la fronde.
Le Bourgogne, c'est le Bourgogne, et le Beaujolais, c'est le Beaujolais. Ça serait complètement absurde d'exclure de l'appellation Bourgogne des pans entiers de la Bourgogne historique. Le Chablisien, le Dijonais, qui est la capitale de la Bourgogne, le Châtillonnais, mais aussi du Tonnerrois, tout ça, ce sont des terres bourguignonnes. Et ce serait débile de les expulser de la Bourgogne viticole.
Guillaume Larrivé avec Laura Mauchi. Alors l'INAO vient de décider de mettre de l'eau dans son vin. Le projet a été retiré de l'ordre du jour, renvoyé à plus tard. Mais vous allez comprendre pourquoi cette réforme de l'AOC Bourgogne serait vécue comme un drame par les viticulteurs concernés. Avec ce reportage à Dié, c'est au nord de Chablis, Nicolas Burnand.
À l'écart du village, Quentin, 20 ans, a planté 2 hectares de vignes sur une parcelle héritée de son grand-père pour se lancer dans le métier. Il craint de perdre son label bourguignon.
Si aujourd'hui c'est du Bourgogne et que demain on passe en coteau bourguignon, ça ferait une perte par hectare de près de 7000 euros par an. Tout le temps que j'étais à l'école et au lycée, un lycée professionnel, on nous a toujours encouragés à nous installer. Et aujourd'hui, on nous coupe un petit peu les jambes, quoi.
Le jeune homme a investi 25 000 euros dans l'exploitation familiale qui produit majoritairement des céréales afin d'assurer des revenus plus réguliers. Christophe, son père, est désespéré.
Dans la famille, je suis la 8e génération dans la ferme. On essaie de produire avec ce qu'on possède. Plutôt que d'avoir une production qui va nous coûter de l'argent, d'arracher la nouvelle plantation, ça ne sera pas vraiment de gaieté de cœur. L'éventualité a été abordée.
La moitié des 4500 vignerons de la région bénéficient de l'appellation Bourgogne. Mais aujourd'hui, des parcelles de Beaujolais pourraient aussi prétendre à cette appellation, ce qui inquiète Bruno Verret, le président du syndicat des Bourgognes.
Ceux qui ne perdront pas directement leur appellation vont se retrouver directement en concurrence avec des vignes qui peuvent être plantées massivement dans le Beaujolais. Et à partir de ce moment-là, on risque d'avoir une perte de légitimité d'appellation. En termes d'image comme en termes économiques, c'est l'ensemble de la Bourgogne qui va vaciller, clairement.
L'examen du projet de révision a été repoussé. Son entrée en application ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.
Reportage signé Nicolas Burnand. On suivra évidemment cela de très près.
Dossier sensible. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
Le texte poursuit péniblement son chemin en commission à l'Assemblée à travers les milliers d'amendements déposés par l'opposition. Les syndicats espèrent réunir plus de monde que la semaine dernière. Seules quelques lignes de Transilien seront perturbées aujourd'hui. Les avocats, eux, manifestent depuis un mois maintenant contre la disparition annoncée de leur régime autonome, autofinancé et surtout excédentaire. Ils attendent aujourd'hui de nouvelles propositions du gouvernement et à Bobigny, ils se sont mis en scène hier lors d'un procès fictif suivi pour RTL par Thomas Dulin.
Sur le banc des prévenus, 3 avocats grévistes du parquet de Seine-Saint-Denis jugés par cette fausse cour d'assises de la Macronie.
Pour la lecture des chefs d'accusation.
Pour avoir imposé une résistance violente à l'application de la réforme des retraites, en l'espèce, en ayant de manière répétée chanté pirouette béloubette dans des lieux publics. Infraction prévue et réprimée par la...
Devant un public hilar, les avocats de Bobigny, travestis en sévères défenseurs du gouvernement, tournent en ridicule la réforme des retraites et les ministres qui la portent.
Nous allons entendre Madame Belloubet.
Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est une très belle profession. Mais qu'est-ce qui me saoule en ce moment ?
À l'origine de ce faux procès, Myriam Galim, avocate à Bobigny.
Ce qu'on essaye de montrer de manière un peu satirique et ironique, c'est qu'on se sent mis actuellement sur le banc des accusés. L'idée, c'est surtout de montrer que par quelque chose qui est notre cœur de métier, à savoir la plaidoirie, on va critiquer cette réforme et démontrer pourquoi cette réforme n'est pas bonne.
À la fin du procès, ultime pied de nez, les 3 avocats grévistes sont condamnés à chanter,
avocat,
repris en chœur par toute l'Assemblée.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur de la justice.
Reportage de Thomas Dulin.
RTL Matin, 8h04.
Le Portugal aussi s'intéresse aujourd'hui aux retraités et vous allez vite comprendre pourquoi ça vous concerne.
Car les Français sont nombreux à s'y installer après une dure vie de labeur. Il faut dire que la fiscalité y est douce pour les retraités étrangers.
Oh, la belle vie.
Mais ça va changer, car le Parlement portugais s'apprête à revenir sur cet avantage. Depuis 7 ans, les seniors européens sont exonérés d'impôt sur le revenu au Portugal. Or, le Parti socialiste au pouvoir veut taxer les nouveaux venus à hauteur de 10%.
Alors, y a-t-il encore des paradis fiscaux en Europe pour les retraités français? C'est la question de 8h.
Et c'est avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il encore un avantage à s'expatrier quand on devient retraité?
Oui, d'abord au Portugal, l'avantage fiscal ne va pas disparaître totalement. Il va être amputé. Mais attention quand même, car l'immobilier au Portugal a bien grimpé. Faites vos calculs et souvenez-vous que pour obtenir ce fameux statut de résident non habituel, il faut vivre là-bas au moins la moitié de l'année.
Et puis le pays qui fait de l'œil aux retraités aujourd'hui, c'est l'Italie.
Oui, depuis 2019, les retraités européens peuvent s'installer dans une petite ville du sud du pays, Sicile, Calabre, dans les Pouilles. Ils bénéficient alors d'une taxation limitée à 7% sur leurs revenus. L'Espagne aussi, là-bas, vous payez toujours votre impôt sur le revenu en France, mais vous êtes exonéré de la CSG et de la CRDS. Et puis la fiscalité immobilière y est avantageuse. Pareil en Grèce. Une précision d'importance pour terminer. Seuls les anciens salariés du privé sont concernés par ces convention entre la France et les autres pays européens.
Précision importante, la question de 8h avec Bénédicte Tassard.
14 blessés cette nuit à Jérusalem, essentiellement des militaires. Une voiture dans la foule en plein centre-ville. Une voiture a foncé dans la foule en plein centre-ville. La police a ouvert une enquête pour attaque terroriste. À Washington, dénouement sans surprise hier soir pour Donald Trump.
Senate having tried Donald John Trump, president of the United States, upon two articles of impeachment.
Le président américain acquitté par le Sénat à l'issue de son procès en destitution. Un seul républicain aura voté contre lui, l'ancien candidat à la Maison-Blanche Mitt Romney, qui a annoncé son vote, des larmes dans la voix et la gorge nouée par 52 voix sur 100. Donc les sénateurs majoritairement républicains estiment que le président ne s'est pas rendu coupable d'abus de pouvoir.
La mort maintenant du dernier Mohican de l'âge d'or d'Hollywood.
Règlement de compte à Hockey Corral, l'un des innombrables succès au cinéma de Kirk Douglas. On le croyait immortel, et bien il a finalement rejoint les étoiles d'Hollywood à 103 ans. Il avait eu pour collègues de travail, rendez-vous compte, Burt Lancaster, Lauren Bacall, Anthony Quinn, Tony Curtis, avec lequel il avait d'ailleurs partagé l'affiche des Vikings en 1958.
Ce faucon est à qui? À moi.
Oh.
Un esclave qui possède un faucon de chasse.
Je l'ai trouvé à demi-gelé sous un arbre.
Pourquoi l'as-tu volé? Peut-être bien que si je te faisais couper la langue, tu mentirais moins.
Je ne suis pas un menteur. Un esclave parle-t-il ainsi à un viking? Tu...
Voilà, Kirk Douglas, ou plutôt Roger Rudel, pour la voix française.
On revient sur la mort de ce géant d'Hollywood à partir de 9h, bien entendu, dans Laissez-vous tendez. Perpignan, cible de choix du Rassemblement National. Spécial municipal à suivre dans un tout petit instant.
RTL 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Municipal 2020, RTL près de chez vous.
Et aujourd'hui, nous posons nos valises à Perpignan.
La cité catalane, objectif numéro 1 du Rassemblement National, ville de plus de 100 000 habitants, détenue par la droite depuis les années 70. Le candidat de Marine Le Pen et son ancien compagnon, Louis Alliot, qui fait la course en tête dans les sondages. Le député des Pyrénées-Orientales s'efforce de séduire au-delà des classes populaires, la bourgeoisie perpignanaise. C'est le cœur de sa stratégie, hein, gagner en respectabilité. Il fait d'ailleurs campagne sans étiquette, une campagne de notable. Alors on va voir ce que ça donne avec vous, Marie Mollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Vous êtes allée en reportage dans les quartiers chics de la ville.
Oui, on est ici dans les quartiers parmi les plus chers de la ville. De jolies maisons avec vue dégagée sur les Pyrénées, des villas privées au milieu des vignes. Bref, on est très loin du centre-ville sinistré. Alors ici, le nom de Louis Alliot divise. Pour certains, il reste le candidat du Front, un repoussoir absolu.
Il se cache aujourd'hui derrière une espèce de divers droite nébuleuse dont on ne sait pas très bien ce qu'elle représente. Enfin, quand même, personne n'oublie qu'il a joué un rôle éminent au sein du FN. Il a été le compagnon de Marine Le Pen et qu'il fait quand même toujours campagne sur les mêmes thèmes.
Mais pour beaucoup d'habitants, Louis Alliot, c'est un candidat comme un autre, une option possible.
Il me semble pas affreux comme on peut des fois l'entendre, etc. Parce que il se revendique pas du Rassemblement National ou pas trop.
Je veux que ça change. Je suis prête à voir ce que peut faire Alliot.
Moi, il me dérange pas. Hein. Aucun candidat me dérange.
Hein. Et les préoccupations qui reviennent ici, ce sont la criminalité et l'immigration.
L'immigration, je m'excuse, mais quand on voit pas mal de choses en Perpignan, on se dit quand même... Comment ils vont faire ces gens pour travailler? Je veux bien qu'on les aide, même si on pouvait les aider chez eux, ce serait encore mieux.
Voilà, donc vous l'entendez, Louis Alliot pourrait avoir une clientèle dans ces quartiers bourgeois. C'est l'analyse de Nicolas Lebourg, spécialiste des extrêmes droites, chercheur et perpignanais.
Il y a des gens tout à fait fortunés qui peuvent aller voter à l'extrême droite, d'autant plus que Louis Alliot, on dit souvent pour plaisanter que c'est un centriste de l'extrême droite, c'est assez juste. C'est quelqu'un qui a une conception à la fois libérale et sociale, une extrême droite très présentable avec laquelle il peut y avoir des accords politiques.
Une extrême droite présentable en bon père de famille, c'est le fonds de commerce de Louis Alliot depuis des années. C'était l'un des penseurs de la dédiabolisation. En revanche, pour ces élections, il a franchi un nouveau cap puisqu'il part sans l'étiquette RN. Pas de logo du parti, pas de photo de Marine Le Pen dans son QG du centre-ville. Donc une prise de distance affichée, notamment pour draguer cet électorat plus bourgeois.
Merci Marie Mollet en direct de Perpignan pour RTL LR. D'ailleurs, au secours de son maire sortant Jean-Marc Pujol, puisque Christian Jacob, le patron du parti, était hier sur place, et une visite de Nicolas Sarkozy est annoncé pour le mois prochain.
Et on retourne à Perpignan avec Christelle Robière et toute l'équipe d'RTL Midi en direct dès 12h30.
Cette information qui nous provient d'Italie, l'accident d'un train à grande vitesse, il a déraillé près de Milan. Il y a deux morts et une trentaine de blessés. Les deux personnes décédées seraient les machinistes du train. On n'a pas plus de précision pour l'instant. Engie sur le point de débrancher sa directrice générale, Isabelle Cochère, le conseil d'administration avec lequel elle est en conflit depuis plusieurs mois a lieu aujourd'hui. L'État actionnaire ne l'a toujours pas officiellement soutenu. Isabelle Cochère est la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40.
La situation est très grave. Ce sont les mots de Roxana Maracineanu à nous ce matin sur RTL après l'avalanche de révélations d'abus sexuels dans le monde du sport.
La ministre des Sports annonce l'ouverture d'une cellule d'écoute au ministère. Je lance un appel. C'est important que tout sorte, que les coupables soient punis. Elle a demandé une nouvelle fois la démission du président de la Fédération de patinage, Didier Gayaguet, qui refuse pour l'instant de s'en aller. Le journal L'Équipe publie ce matin un nouveau témoignage contre l'entraîneur Gilles Bayer. La maman d'une jeune patineuse affirme avoir été harcelée par des messages obscènes. Et puis le président du SCO d'Angers, Saïd Chaban, a été mis en examen hier soir pour agression sexuelle aggravée. Il est accusé par des salariés et anciennes salariées du club. Il a été placé sous contrôle judiciaire mais continue à gérer le club. En Ligue 1, drôle d'ambiance à Saint-Etienne où l'OM l'a emporté 2-0 en l'absence de ses supporters. Victimes de heurts à leur arrivée, ils sont repartis sous escorte policière. Lyon a raté l'occasion de se rapprocher du podium, 0-0 contre Amiens. Tous les résultats à retrouver sur notre site rtl.fr.
On termine avec l'histoire du jour.
Tête en l'air, le garde du corps de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Il a oublié dans les toilettes d'un avion de ligne son pistolet chargé ainsi que son passeport et celui de son patron, David Cameron, qui était à bord. C'est un passager paniqué qui a donné l'alerte. Résultat, le vol New York-Londres est parti avec une heure de retard. Le policier s'est fait virer. Et alors en 2012, c'est David Cameron lui-même qui avait fait la une des journaux pour un oubli fâcheux. Toujours dans les toilettes, il avait quitté un pub en laissant sa fille de 8 ans au petit coin.
Oh, il avait un petit coup dans le nez, quoi. C'est tout.
Il y avait un quiproquo avec sa femme,
léger
apparemment.
Léger quiproquo. Voilà, c'était donc le journal de Jérôme Florin.
RTL, 8h13, Yves Calvi.
RTL, vous êtes comme ça. Notre rendez-vous de reportage à 8h35. Les rues de la Seine-Saint-Denis, aux étoiles d'Hollywood Boulevard. Il n'y a qu'un pas que nous allons franchir ce matin grâce au réalisateur des Misérables. Lajli, des jeunes du 93 vont aller à Los Angeles. Entre cinéma et rêve d'ailleurs. Écoutez Karim.
Là-bas aussi également, on va faire des maraudes, aller à la rencontre d'un lycée dans un quartier populaire, des rencontres sportives. C'est pas que les paillettes, il y a un gros projet derrière. Et on est là-bas pour chercher après des financements pour d'autres projets, pour les générations futures qui auront sûrement des meilleures idées que nous et des meilleurs projets que nous, j'espère.
Tu veux mettre un smoking à un moment du séjour?
Moi je mettrai mon petit smoking dans la valise en tout cas. Mon petit trois pièces, il sera dans la valise.
Retrouvez notre reportage avec Sophie Orange à 8h35.